Marie-France, on va parler d'abord, c'est quelque chose d'étrange et que vraiment, beaucoup de gens sont complètement sidérés par cette histoire du député maintenant, Tony Clement, qui a avoué jeudi dans une lettre à ses électeurs publiée sur son site web qu'il a dû s'adresser à la police non pas à une, mais à plusieurs reprises, à deux reprises pour des tentatives de sextorsion liées à des échanges inappropriés, évidemment, qu'il avait initiés en ligne.
Exactement. Et c'est pas un ado niaiseux. C'est un député conservateur de 57 ans, un mari, un père, tu le disais tout à l'heure, ex-ministre de la Santé, ex-ministre de l'Industrie, ex-président du Conseil du Trésor sous Stephen Harper. Il a même été membre du comité parlementaire qui surveille les activités des services de renseignement et de sécurité nationale, qui inclut évidemment les réseaux sociaux. Et il a envoyé, pendant trois semaines, des photos et des vidéos sexuellement explicites de sa virilité à quelqu'un qu'il croyait être une destinataire féminine consentante qu'il ne connaissait absolument pas. Puis là, il a été victime d'une tentative d'extorsion. Et la deuxième fois, donc, autre tentative d'extorsion en raison de relations intimes avec des femmes qu'il avait rencontrées sur les réseaux sociaux. Vraiment stupide, cinq fois plutôt qu'une, Paul. Je t'explique les cinq raisons pour lesquelles c'est vraiment crétin. Alors, le gars surveille les activités les activités de renseignement et de sécurité nationale, mais il utilisait Instagram comme un illettré numérique. J'ai peur de sa compétence dans son next job de jour. Le jugement était vraiment en option sur Tony Clement, triple ministre, influent, et pourtant la maturité d'un préadolescent, une ignorance crasse, on lui a confié donc des dossiers d'importance nationale. Et là, je trouve que Stephen Harper, a posteriori, n'a pas été très exigeant quant au jugement de Tony Clement, parce que quand même, c'est pas le jugement qui l'a quitté d'un coup, là. Ça laisse des doutes sur son jugement en général comme ministre. Les réseaux sociaux, on le sait, c'est pas facile pour tout le monde. Ça peut en rendre certains fous. Ce sont des lieux extrêmement périlleux. Tout peut ressurgir, tout peut être utilisé et ce que plusieurs ont tendance à oublier, ce n'est pas un lieu privé, ce n'est pas un lieu neutre. Les naïfs s'exposent à des dangers et c'est étonnant, et dans son cas, c'est même idiot de ne pas l'avoir su. L'autre affaire, c'est la vague MeToo, moi aussi, qui aurait dû inciter et qui devrait inciter les hommes et les femmes à la prudence la plus extrême, et en particulier des hommes en position d'autorité, qui ont du pouvoir. Et ça a eu un effet...
Oui, c'est comme s'il y avait manqué les nouvelles de l'automne dernier.
Mais complètement. Et on se rend compte, Paul, que... Parce que c'est récent ce qui s'est passé avec Tony Clement. Donc, cette vague MeToo a étrangement eu un effet très limité, visiblement. Beaucoup se croient encore intouchables. Je ne l'explique pas autrement. Et dernière remarque sur son cas, la politique est un lieu clos, un lieu fermé de pouvoir et d'abus. On aurait pu croire que le cercle s'était civilisé avec la venue massive de femmes en politique. Eh bien non, c'est encore le Boys Club et régulièrement, on a connaissance de ces cas d'inconduite sexuelle. Il y en a eu à Québec, il y en a eu à Ottawa, il y en a eu en France. DSK, évidemment, est le cas le plus célèbre. Aux États-Unis, il y a Donald Trump qui se vante presque de ses inconduites sexuelles. Alors, le pouvoir, ça s'exerce aussi encore, malheureusement, de nos jours, via une sexualité conquérante, décomplexée, de prédateur. Alors, vraiment... J'aurais tendance à dire, chers politiciens, excuse-moi, un chat, si vous aimez votre quéquette, achetez-vous un miroir plutôt qu'un iPhone 10.
Oui, plutôt que d'utiliser Instagram.
Exactement.
Il était un véritable fanatique d'Instagram.
C'est complètement fou.
Ben oui, je sais.
Vraiment, alors, les réseaux sociaux à utiliser avec circonspection.
Sur une note plus sérieuse, c'est une journée extrêmement importante dimanche 11 novembre. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est le jour du souvenir. Mm-hmm. 11 novembre du 11e mois 1918, nous allons célébrer le 100e anniversaire, notamment, parce qu'on parle des autres guerres aussi,
oui,
mais notamment du 100e anniversaire de l'armistice et puis finalement de la fin de ce conflit, le premier conflit qu'on a appelé la Grande Guerre.
Exactement. Une boucherie absolument horrible, un déluge de feu et de fer. Il y a eu 18,6 millions de morts militaires et civils confondus, des Canadiens qui étaient bien sûr intégrés à l'armée britannique. Et pendant la Deuxième Guerre, qu'on commémore aussi, 60 millions, dont des Canadiens français très braves dont on connaît les exploits. Et c'est le coquelicot qui est au Canada le symbole de ces sacrifices, surtout pendant la Première Guerre, parce que c'est une fleur qui s'est mise à pousser en Flandre parce que la chaux que laissaient les bombardements était favorable à son éclosion. Donc, c'est pour ça que c'est devenu le symbole. Et Paul, plus j'en ai appris sur les guerres, sur ses effets sur les populations, plus j'ai vu, plus j'ai entendu, plus j'ai rencontré des vétérans de guerres récentes, de la Bosnie, de l'Afghanistan, du Rwanda. J'ai vu aussi ces documentaires que tu admires toi aussi.
Apocalypse,
la série d'Isabelle Clarke et de Daniel Costel. Je me suis ouvert les yeux à travers cette parole-là, à travers cette douleur-là, parce que je te dis, avant, je me considérais comme pacifiste, et puis la guerre, moins on en sait, mieux on se porte. Je me suis vraiment ouvert les yeux. La guerre est une horreur et le moyen de la combattre, c'est justement d'entendre, d'écouter ceux et celles qui l'ont connue, qui l'ont faite, qui l'ont combattue. Et ça continue, bien sûr. Hein? On parle de ces deux guerres mondiales, mais depuis, les guerres sont locales. Ce sont des conflits entre nations limitrophes ou à l'intérieur d'une nation. Des conflits qui continuent à faire des millions de victimes, des militaires, évidemment, mais qui, avec des millions de civils qui sont les premières victimes, des gens qui sont déplacés, qui deviennent des migrants. Je vais te parler de trois personnes, Paul. D'abord, une femme qui s'appelle Hélène Le Soleur, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années, qui était dans l'armée canadienne, qui est restée pendant 26 ans. Elle était capitaine. Elle est allée en ex-Yougoslavie, puis en Afghanistan, et elle menait vraiment des missions, et elle aidait les femmes afghanes. On a beaucoup dit que cette guerre-là, c'était pour libérer les femmes et les filles d'Afghanistan, et elle s'occupait vraiment de ça. Et elle avait des hommes sous sa responsabilité. Et un jour, elle a envoyé en mission deux soldats qui ne sont pas revenus. Et elle a éprouvé une culpabilité inouïe. Elle a subi un choc traumatique effrayant. Et elle ne pouvait, tellement qu'elle ne pouvait plus être déployée sur le terrain, on l'a rapatriée et elle a dû quitter l'armée à cause de ça. Et elle a fait un doctorat pour comprendre. Aujourd'hui, elle fait du travail social. Et c'est une femme vraiment extraordinaire qui te fait comprendre c'est quoi la guerre, pourquoi tu t'engages, pourquoi tu fais ça pour ton pays et comment ça peut te démolir et que tu es laissé à toi-même. J'ai aussi eu la chance, toi aussi certainement, de rencontrer Roméo Dallaire, mm-hmm. Qui est allé au Rwanda, qui commandait au Rwanda en fait en 1994. Au moment
J'ai serré la main du diable,
un
le livre titre de son
livre. Absolument remarquable et bouleversant. Et c'est lui qui a levé le flag et on l'a abandonné là littéralement. Il en a fait, on le sait, c'est connu, une dépression. Il y a eu un épisode de quasi-itinérance, de consommation. Et
des instincts suicidaires.
Exactement. Et il a écrit des livres extraordinaires par lesquels est subvenue sa rédemption. Il s'est refait littéralement. Et aujourd'hui, il travaille, il est conférencier reçu partout. Et il fait un travail absolument remarquable. Il est un spécialiste international de la question des enfants soldats. Il travaille là-dessus. Il fait vraiment des choses époustouflantes. Et c'est un homme avec qui, tu comprends, moi j'ai fait des entrevues avec lui qui se terminaient, il pleurait, je pleurais, et puis c'était tellement émotif et émouvant de l'entendre parler. Il faut lire ses livres pour comprendre ce qu'est une guerre aujourd'hui. Et pour ces deux personnes qui se sont reconstruites de manière remarquable et qui aident les autres aujourd'hui, combien de vétérans à la rue, combien qui souffrent de stress post-traumatique, qu'on n'arrive pas à aider, qui sont perdus pour toujours, mais qui sont surtout sortis de nos mémoires. Je pense qu'il faut vraiment leur rendre hommage ce dimanche. Il faut se nourrir de leurs histoires pour que l'horreur ne recommence pas, parce que ce sont ceux qui sont allés au front pour défendre une vision du monde libre. Et je terminerai avec mon plus grand regret. Mon père n'a jamais vraiment voulu parler de sa guerre. Il était italien, il est mort il y a 4 ans. Il a été soldat, un jeune soldat en Italie. Il a vécu l'horreur, il a été capturé. Il a été capturé par les Anglais. Il a été emprisonné en Afrique du Nord et libéré par les Alliés. Et il voulait se raconter, mais on ne voulait pas l'entendre. On ne voulait pas écouter. Moi, je n'étais pas la première. Je ne voulais pas entendre ça. C'était des histoires trop horribles, trop vieilles, trop loin. On était gênés. Et aujourd'hui, je ne connais que des bribes de son histoire et je le regrette vraiment. Alors, respect aux vétérans et aux militaires.
Un excellent hommage bien senti. Merci beaucoup, Marie-France.
Merci,
Paul. Au revoir et bon week-end.